Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre-champ avec Moussa. Salut Moussa.
Salut François, salut tout le monde.
Et aujourd'hui, on va parler de lâcheté. Générique.
Et donc, pour ce 49e épisode, François, je t'ai demandé de regarder Shawshank Redemption, Les Évadés en version française, un film de 1994 dans lequel Tim Robbins incarne Andy Dufresne, cadre de banque accusé du meurtre de sa femme et son amant ivre un soir de 1947. Meurtre qu'il niera avoir commis en vain, puisque son tempérament nonchalant et froid n'auront pas convaincu le jury ni le juge qui prononcera sa sentence. Andy se voit condamné à la double perpétuité et se retrouve dans la prison de Shawshank. Son attitude particulière lui vaudra d'abord l'antipathie d'autres détenus jusqu'à ce qu'il rencontre Red, le gars qui peut tout vous dénicher en prison, avec lequel Andy tissera d'importants liens. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est un film, je pense, qui doit se découvrir dans ce qui suit, si ce n'est que c'est un film adapté de la nouvelle de Stephen King, Rita Hayworth and Shawshank Redemption, dont Frank Darabont, le réalisateur, dont c'est d'ailleurs le premier film, le premier vrai film, aura racheté les droits quelques années plus tôt. Voilà, sans en dire plus, François, je te cède la parole. Qu'as-tu pensé de ce Shawshank Redemption ?
Ah, énorme soupir. Moussa, est-ce qu'on dit un mot de contexte d'abord ? C'est un film que tu veux me faire voir depuis des mois. Que je ne veux pas voir depuis tout autant de temps. Et pour cause, c'est que j'ai une réaction un petit peu épidermique à l'engouement, on va dire, populaire. Puisqu'il faut savoir que The Shawshank Redemption est donc le film classé numéro 1 d'à peu près tous les classements populaires de films, et notamment le classement le plus célèbre, qui est le classement donc IMDb. C'est considéré donc comme le plus grand film de tous les temps. Alors, je ne vais pas faire mystère, je pense que c'est un statut extrêmement surfait. Je pense que c'est un film qui te tient à cœur, donc je vais essayer d'aller avec des pincettes, et je vais te dire que j'ai eu une réaction en deux temps à ce film. Il y a deux lectures que j'en fais. Une première, si on décide de débrancher son cerveau et qu'on se laisse emporter totalement au premier degré par le film, eh bien, c'est une grande fresque dramatique, c'est un beau et grand film classique. Pourquoi dis-je classique ? Parce que sa mise en scène, tout d'abord, est d'une grande sobriété, mais d'une grande maîtrise. La sobriété n'est pas nécessairement un défaut ici. On est vraiment dans quelque chose d'absolument maîtrisé. Il y a une très belle photographie, une impeccable direction d'acteur. Il faut bien dire que le casting est absolument parfait. De Tim Robbins et son air un petit peu inquiétant, il a un petit côté de malaise qui est parfait pour le rôle, à l'inévitable Morgan Freeman, en passant par des seconds rôles, notamment James Whitmore qui joue le vieux libraire, ouais. Brooks, très touchant, ou Bob Gunton qui joue le warden, donc le directeur de la prison,
directeur.
Un antagoniste tout à fait terrifiant. Vraiment, le casting est impeccable, hyper bien dirigé, on est dans des chaussons, hein. Je parlais de films, grands films classiques, là vraiment on est malgré la sobriété de la mise en scène, on est vraiment dans un... Vous voyez, de quelque chose de très confortable avec des acteurs fantastiques. Et un scénario qui est pour le coup tout à fait redoutable, parce que, au-delà de cette fresque que l'on croit peut-être attendue, termine quand même sur un dernier acte avec un retournement et un dénouement qu'on ne peut pas attendre pour le coup, qui est très surprenant et incroyablement gratifiant pour le spectateur. Alors ça, voilà. C'est le tableau.
Donc tu as adoré.
Eh ben non, parce que c'est le tableau si on, comme je l'ai dit, on débranche son cerveau, mais on est quand même là un petit peu pour réfléchir. Et donc, si on s'arrête deux minutes à ce que le film raconte, moi c'est dès le moment où je mets à réfléchir à ce que le film raconte que j'ai un vrai problème avec lui. Ce dernier acte, c'est vraiment le pivot pour moi de cette analyse en deux temps. Donc voilà, soit on s'arrête au côté premier degré et on voit un grand film classique, effectivement terriblement gratifiant sur la fin, avec de très bons acteurs, je l'ai dit. Malheureusement, le dénouement, qui est la vraie parabole, hein, pour le coup, de la trajectoire du personnage, c'est aussi pour moi le révélateur de tout ce qui ne va pas dans le film. si on prend un tout petit peu de recul sur ce que ça raconte, parce que c'est quand même, on essaie quand même d'analyser aussi ce que les films nous racontent, c'est un, pour moi, c'est vraiment représentatif de cette incapacité du cinéma grand public américain à envisager l'aspect systémique de ses propres problèmes de société.
Très intéressant.
Alors, c'est un film sur la, enfin, qui se prétend être un film sur la question carcérale et qui soulève des pistes extrêmement intéressantes. Il soulève notamment la question de l'institutionnalisation, c'est-à-dire qu'on va suivre des personnages qui sont condamnés pour la plupart à vie, donc qui sont internés à vie parce qu'ils ont commis des actes, commis ou pas, à voir, mais en tout cas ce sont des personnes qui sont condamnées à rester toute leur vie en prison et qui donc doivent philosophiquement s'adapter à cet environnement dont ils ne sortiront jamais, s'adapter à ces règles très particulières avec toutes les dérives du système carcéral qu'on peut imaginer, avec des gardes qui sont violents, avec des conflits au sein même des différentes communautés de prisonniers. Tout ça, c'est un univers et un imaginaire qu'on connaît, qu'on maîtrise. Donc il y a des pistes intéressantes. L'institutionnalisation, ce sont ces personnages qui donc, comme ils n'ont pas d'autre choix que de vivre le restant de leur vie dans l'enceinte de ces murs, et bien finalement finissent par s'habituer et par faire de ce monde leur monde. Et on a un exemple qui est par ailleurs très touchant d'un personnage, un vieux libraire, qui en fait a trouvé le sens de sa vie au sein de cette prison, en s'occupant notamment de la toute petite librairie très modeste, mais néanmoins il en a fait le centre de son existence. Et il finit à la toute fin de sa vie par être libéré. Et en fait, il ne veut pas sortir, il ne parvient pas à se réhabituer, à se réinsérer dans la société, et il finit très rapidement par mettre fin à ses jours de désespoir.
Je me permets juste, parce que c'est une petite parenthèse toute bête, mais je t'avais demandé si tu avais vu Les Temps modernes de Charlie Chaplin, et c'est quelque chose, je pense, qui renvoie aussi à ce film où Charlie Chaplin se retrouve dans le confort de la prison, il est nourri, logé et veut y retourner une fois qu'il est libéré. Je trouve que ça me fait toujours penser à cette séquence-là du film.
Ouais. Et qui est une séquence très touchante, hein, vraiment.
Tout à fait.
Le film a des grands moments d'émotion, ça je n'y dis pas. Le problème, c'est que toutes ces questions philosophiques, presque métaphysiques, du sens qu'on donne à sa vie dans des conditions aussi particulières, c'est qu'en fait, c'est jamais réellement traité. Parce que la plupart de ces personnages ont donc, avant l'arrivée de Tim Robbins, donc d'Andy Dufresne, le personnage qu'on va suivre tout au long du film, je rechigne à dire protagoniste parce qu'en fait, il n'est pas le protagoniste du film. En fait, ces personnages ont appris, enfin, disons, font un chemin philosophique par rapport à leur parcours. Et en fait, l'arrivée de ce personnage, incarné par Tim Robbins, donc, va remettre en cause leurs croyances, et notamment la croyance de l'autre personnage qui est en fait le protagoniste, donc le personnage incarné par Morgan Freeman, le personnage de Red, parce que ce personnage ne va jamais se départir de son espoir. En fait, il va incarner la thématique de l'espoir et il va expliquer à ces prisonniers qui font contre mauvaise fortune bon cœur, si je puis dire, ou en tout cas qui tentent de vivre avec l'acceptation de leurs conditions et donc avec un refus d'entretenir l'espoir qui justement peut amener l'esprit humain à la folie. Eh bien, lui, il va dire non, il faut constamment entretenir l'espoir, etc. Il va réintroduire cet espoir au sein de la communauté. Ce qui, pourquoi pas, est un thème positif, enthousiasmant certes, sauf que, comment est-ce que le film résout ça? Il résout ça par, si je peux le dire vulgairement, par un twist qui pourrait se résumer à un « ta gueule, c'est magique ». Plus concrètement...
Je pense que avant l'émission en off, tu as utilisé le terme « tunnel de merde
». Oui, parce que... Bah, on va essayer de pas spoiler parce que le film tient vraiment sur sa révélation, donc on peut pas.
Tout à fait.
C'est difficile, mais
c'est pour ça que j'essaie de rester cryptique.
Exactement, mais enfin, il faut quand même expliquer pour le propos que le personnage de Tim Robbins va donc vivre des épreuves terriblement difficiles pendant des dizaines d'années, puisqu'il va rester enfermé là très longtemps, avant un épilogue très surprenant et, je l'ai dit, très gratifiant pour le spectateur. Et en fait, je pense que cette manière de rendre la fin aussi gratifiante pour le spectateur est en réalité une, donc, quand je l'appelle vulgairement le « ta gueule, c'est magique », en fait, plus concrètement et plus sérieusement, pour moi, c'est une déresponsabilisation totale du spectateur par le ressort de la romantisation poussée à l'extrême. En gros, on te propose une fin qui tient du conte, en fait, qui relève du conte, qui n'est absolument, bah, qui n'est pas crédible un instant, mais après tout, pourquoi pas ? C'est le grand twist du film, et voilà, et il est tout à fait satisfaisant quand tu le vois en tant que spectateur, sauf que ça vient effacer d'un revers de main toutes les thématiques concrètes qui avaient été soulevées par le film. C'est-à-dire que grâce à ce retournement magique, littéralement, en fait, toute la trajectoire de ces personnages, de ces détenus qui étaient traités de manière assez réaliste, toutes ces trajectoires sont complètement effacées pour la gratification du spectateur et à travers en plus un personnage, incarné donc par Tim Robbins, qui est innocent. Et c'est ça le vrai problème du film, selon moi, c'est que la plupart des détenus, enfin tous les détenus, ce sont donc des détenus condamnés à longue durée, ce sont pour la plupart des gens qui ont commis des actes extrêmement répréhensibles, dont Red qui est un meurtrier, et toute la réflexion sur la... comment dire... Le fait de punir des citoyens qui ont commis des actes terriblement répréhensibles et leur potentielle réinsertion au sein de la société est en fait balayé par ce personnage de Tim Robbins et par son parcours qui est en fait un parcours magique et qui du coup permet de ne pas se poser les vraies questions et de ne pas envisager l'aspect systémique des problèmes de société américaine, notamment la question de l'incarcération et de la réinsertion potentielle des personnages. Au-delà même de la question des prisonniers, le film dénonce aussi les travers de l'institution carcérale, puisque le directeur est en fait réellement corrompu et va s'appuyer sur le personnage de Tim Robbins, qui est en fait un banquier, qui est donc éduqué, et ça aussi c'est un des grands points de discorde avec le film, c'est que c'est le seul personnage éduqué qui arrive au sein de cette communauté et qui donc... Le directeur va en fait s'appuyer sur lui pour détourner de l'argent, en fait, mettre en place un système frauduleux et se faire de l'argent sur le dos du contribuable. Et en fait, toute cette dénonciation pourrait être intéressante sur les travers de la prison, sauf que la résolution du film, encore une fois parce qu'elle flatte le spectateur, mais qu'en fait elle se prive de toute crédibilité, elle efface tout ça de nouveau d'un revers de main et en fait... On célèbre cette espèce d'individualisme, ce cas particulier, cette trajectoire extraordinaire de ce personnage si spécifique, ça permet d'oublier totalement tout le reste et tout l'aspect systémique, des problèmes carcéraux. Et ça, je trouve extrêmement rageant. C'est de la romantisation, et c'est un des travers du cinéma américain. Moi, j'ai vraiment le même problème avec des films de sociétés comme Moneyball, par exemple. J'ai aussi le film d'un...
J'allais dire les films sportifs en général.
Les films sportifs en général, exactement, mais Moneyball particulièrement, qui est célébré comme un excellent film et qui, en fait, a une morale que je trouve absolument dégoûtante. Il y a un autre film comme ça, mais je ne reviens pas sur le nom, mais c'est un film avec Harrison Ford qui joue un grand reporter à la télévision et qui, en fait, va se convertir à la télé quotidienne, enfin, à la télé poubelle, et c'était un film qui est vu comme une comédie tout à fait positive et que c'est extraordinaire comme changement.
Ça me revient plus non plus.
La morale est absolument détestable. Et j'ai un peu le même problème avec The Shawshank Redemption. C'est qu'en fait, sous prétexte de flatter le spectateur, et ça marche, hein, parce que quand je dis flatter le spectateur, c'est lui offrir des grands moments d'émotion, des grandes envolées lyriques, des grands moments de romantisme. En fait, ça permet d'effacer de vraies thématiques qui devraient être traitées et en fait qui ne sont pas et qui sont complètement glissées sous le tapis à cause de ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me dérange profondément dans le film. Je lui reconnais pour autant un vrai savoir-faire de fabrication. Il y a j'en ai pas parlé, mais la musique est vraiment assez extraordinaire et participe à l'empathie que tu ressens pour ce personnage et pour les personnages en général, mais pour les trajectoires en tout cas.
Musique composée par Thomas Newman, si je dis pas de bêtises, et qui est effectivement très 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 jolie.
Très marquante, effectivement. Un dernier mot quand même sur cette espèce de sous-discours, moi, que je perçois et qui me dérange profondément. Je l'ai déjà partiellement évoqué. Donc le personnage principal est Morgan Freeman, puisque c'est lui qui raconte en fait l'histoire de Tim Robbins. C'est son histoire à lui, racontée par Morgan Freeman. Alors la plupart du temps, les voix off dans un film, c'est une mauvaise idée, mais Morgan Freeman, tu pourrais lui faire lire le bottin téléphonique ou une liste de courses, ce serait formidable. Ben, c'est le cas. Tu lui fais dire n'importe quoi et tu lui fais en fait pratiquer quelque chose qui est généralement une mauvaise recette pour la création d'un film. Ça marche complètement. Sauf que, il y a une phrase à la toute fin, moi, qui me hérisse le poil, c'est qu'il dit du personnage de Tim Robbins, certains esprits sont trop brillants pour être ici, donc dans la prison. C'est littéralement, donc en anglais, too, are too bright. Et c'est vraiment révélateur du film parce qu'en fait, c'est pas le problème que le personnage de Tim Robbins est trop brillant pour être pour passer sa vie dans la prison. La vraie question, et qui est jamais évoquée, c'est la question de son innocence. C'est qu'en fait, il devrait pas être là, mais c'est pas parce qu'il est trop brillant. Or, le film le présente comme, ouais, mais c'est quand même un bon banquier blanc, il devrait quand même pas être dans cette prison avec uniquement la lie de la société, tu vois. Et ce truc-là me dérange profondément. Je crois que là, il tape vraiment à côté, et la phrase est vraiment problématique selon moi. Mais voilà, ça c'est un problème moral que j'ai avec le film. Je suis bien impatient de savoir ce que t'en as pensé toi, parce que je crois que c'est un film qui te tient à cœur et que tu as revu, et je me demande si du coup est-ce que c'est des choses que t'avais déjà en tête à l'époque quand tu l'as vu, ou bien ça t'est apparu maintenant, ou pas du tout, et c'est toujours quelque chose qui t'emporte complètement. Voilà, je te passe la parole et je suis impatient de savoir ce que t'en as pensé.
Alors, tout d'abord, il faut savoir une chose, c'est que je n'ai pas vu de Shawshank Redemption à l'époque de sa sortie. C'est un film que j'ai découvert assez tard, en fait, je pense il y a une dizaine d'années. Donc quand même, bien bien après sa sortie. Heureusement, je n'étais pas confronté à l'espèce d'engouement général. Je m'étais donné pour objectif de regarder les films les mieux notés sur IMDb. Et donc fatalement, je suis tombé sur celui-là que je ne connaissais même pas. Première chose. Donc je suis parti vraiment l'esprit complètement ouvert et étant milieu de la vingtaine, oui j'ai été fort touché par le film, mais je n'ai pas, enfin quand tu dis qu'il me tient à cœur, en fait pas forcément, c'est pas un film qui me tient tellement à cœur, c'est pas quand on me demande mon film préféré, un des premiers qui me passe par l'esprit. Ce sont plutôt des films de Ridley Scott, bizarrement, je sais pas pourquoi, qui me passent par l'esprit quand on me pose cette question. Mais bref, fin de la parenthèse, donc c'est pas forcément un film qui me tient à cœur, même si c'est un film que j'aime beaucoup, effectivement, c'est un film que j'aime beaucoup, pour plusieurs raisons. Néanmoins, les problèmes que tu soulèves, je les vois. J'en suis parfaitement conscient, et c'est rigolo parce qu'il y a pas mal de mots que tu as utilisés, comme systémique par exemple, qui se retrouvent dans mes notes, donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. D'abord, quelques éléments de contexte. Il faut savoir que le film a fait un flop à sa sortie. Je ne sais pas si tu t'es un petit peu renseigné sur la question.
Non, pas du tout.
C'est pas un film qui a coûté très cher, hein, 25 millions de dollars. C'est pas énorme, même si ça l'était plus à l'époque qu'aujourd'hui. On est quand même il y a près de 30 ans. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je l'ai déjà dit, c'est le premier film de Frank Darabont. C'est aussi une époque un peu problématique, puisque d'autres films beaucoup plus populaires sont sortis. Je pense que Forrest Gump, notamment, est sorti à l'époque, qui aurait donc pu faire de l'ombre à celui-ci. D'ailleurs, c'est intéressant, Forrest Gump, qui a aussi certains problèmes que tu viens de mentionner. Très très intéressant, mais qui a aussi été très très populaire, et je pense pour les mêmes raisons. L'anecdote intéressante ici, c'est que c'est essentiellement, pas que, mais c'est essentiellement la location de VHS qui a permis à The Shawshank Redemption de vraiment gagner cette aura extrêmement populaire que tu as mentionné.
Ok, mais tu veux dire donc que c'était un flop au niveau public alors ?
Commercial.
Ah, parce que, oui, ok, c'est ça, parce que critique, je vois à l'instant,
non, non.
Il a été nommé pour cette...
critique,
oui.
Justement, donc c'est d'une part les retours de la critique, le bouche à oreille et la location qui ont permis au film finalement d'avoir des chiffres bien plus honorables. Mais voilà, à sa sortie initiale, il avait environ une quinzaine de millions de dollars au box-office, c'est-à-dire 10 millions de moins que son budget, ce qui est généralement une catastrophe à Hollywood. Donc voilà, ça c'est le premier élément je trouve intéressant pour ce film qui est tellement sensé aujourd'hui, de savoir en fait qu'il a fait un flop commercial à l'origine à sa sortie. Je vais revenir rapidement sur l'esthétique du film, parce que je pense que c'est pas là qu'il y aura énormément matière à débat. C'est un film qui est très très beau, qui est d'une sobriété, tu l'as dit, la sobriété ce n'est pas un défaut, j'aurais non, même tendance à dire le contraire. La sobriété bien maîtrisée, c'est généralement un gage de qualité de la part tant du réalisateur que des responsables de la photographie. Et en l'occurrence ici c'est Roger Deakins qui est à l'œuvre. Donc forcément les couleurs, la lumière, les plans, l'espèce de teint grisâtre qui accompagne tout le temps qu'on passe à la prison, qui dénote effectivement avec le dernier acte, pour des raisons parfaitement logiques, avec des tonalités extrêmement sombres et humides lors de l'élément pivot qui va ouvrir ce troisième acte. Donc il y a une maîtrise ici qui est absolument formidable, et je pense qu'il a aussi contribué à fédérer autour du film. Donc voilà, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de matière à débat. C'est un beau film. Alors, maintenant, sur ce que le film raconte, je pense que la thématique principale du film, c'est l'espoir. Tu l'as déjà dit, hein, c'est aussi un élément que j'ai noté, c'est l'espoir. Je ne pense pas que c'est un film sur la prison. Ça, je pense que c'est... Je comprends pourquoi tu le considères, et la thématique y est présente, mais je ne pense pas que c'est un film sur l'univers carcéral. Je pense que l'univers carcéral sert de prétexte à la thématique qui est celle de l'espoir. On aurait pu faire ce film dans un autre cadre, que ça aurait pu fonctionner aussi. Néanmoins, tu as parfaitement raison, on est dans, et c'est un élément qu'on a déjà critiqué plusieurs fois dans pas mal de films, et j'ai aussi un problème moral avec ça, malgré tout l'amour que j'ai pour ce film, on est dans un film qui célèbre l'individualisme. D'ailleurs, il y a un autre élément, je ne sais pas s'il t'a marqué, mais Andy dans le film n'est pas seulement un homme éduqué, c'est presque une figure de gourou pour le reste des autres détenus. Et dans le troisième acte, ce qu'il fait dénote avec cette figure de gourou. Alors désolé, je vais être cryptique, ou alors non, je vais spoiler, donc je vous préviens, à partir de maintenant, je vais un peu spoiler, donc si vous ne voulez pas que je vous divulgâche le film, passez un petit peu. Mais donc, il s'évade de la prison, et bon, le titre en VF, pour le coup, est un peu problématique, je trouve.
Ouais, tu parles.
J'ai jamais compris pourquoi on avait traduit ce film par Les Évadés, parce que c'est littéralement le gros spoiler du film. Et il s'évade. Donc cette figure messianique s'évade, devient riche, et vit la belle vie à la plage mexicaine. Et ça casse complètement cette figure qu'on lui impose, que le scénario lui impose dans le film. Et je trouve que c'est problématique. C'est pour ça que quand tu as parlé de lâcheté, moi, c'est à ça que j'ai pensé, en fait. J'ai pensé à la lâcheté du personnage. Je vais pas lui en vouloir, soyons honnêtes. Si j'étais à la place d'Andy Dufresne, que j'avais la même opportunité de lui, peut-être que j'aurais fait la même chose. Donc je vais pas être hypocrite, je n'en sais rien. Mais il y a un problème, effectivement, dans ce que, du coup, le film raconte. Alors, ça marche d'un point de vue, comme tu l'as dit, cerveau off, et je pense que c'est là un petit peu l'objectif du film. C'est ce que moi j'appelle le feel-good movie par excellence. Tu as utilisé le terme confortable, mais c'est vraiment ça. C'est un film qui est très très confortable et qui exige, je pense, qu'on mette son cerveau en off si on veut pleinement en profiter. Néanmoins, même s'il n'aborde pas complètement la dimension systémique de cet enfer qu'est l'univers carcéral, je comprends pourquoi on revient à l'individualisme. C'est aussi, je pense, une faute de la part du scénariste, hein, puisque c'est donc Frank Darabont a écrit, hein, il a adapté lui-même en l'espace d'une dizaine de semaines, si je ne dis pas de bêtises, la nouvelle en scénario. Et on a un directeur de prison complètement pourri, on a des gardes qui sont complètement pourris.
Oui, comme on peut imaginer que ce soit, ça arrive. Hein.
Oui, tout à fait, bien sûr. Et on a un système qui est fait pour que ça fonctionne comme ça.
Oui.
C'est-à-dire que tant que le directeur de la prison arrive à faire en sorte que sa prison tourne, mais pas de problème. Il n'y a absolument pas besoin qu'on change les choses et qu'on change donc le système, puisque ça fonctionne. Ces gens sont écartés de la société, et si occasionnellement, quand ils ressortent du fait d'être institutionnalisés, ben, ils ont du mal, c'est pas grave. C'est à chaque fois des petits problèmes individuels qui ne doivent pas forcément reposer sur les épaules du système. Et comme le système nous est décrit de cette façon dans le film, il n'est pas surprenant que ce soit par l'individu qu'arrive le salut. C'est-à-dire comme il ne peut pas compter sur le système, parce que c'est d'abord ce qu'essaye de faire Andy, Et ça, je pense que c'est intéressant. Il essaye de passer par le système pour s'en sortir, mais le système lui dit, ta gueule, ce sera pas comme ça que ça va marcher, tu vas faire ce qu'on te dit et tu vas obéir docilement. Et ça, je trouve intéressant. Moi, c'est quelque chose qui m'a assez marqué la première fois que j'ai vu le film, parce que avant ce dernier acte, Andy essaye de se faire innocenter par la voie légale. Et quand on sait ce qu'il a passé ses 20 ans à faire dans la prison, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il s'est cassé la tête à faire ça?
De la même manière que Red, hein, que Red qui, tout au long du film, en fait des, tous les 10 ans ou tous les 5 ans, a des comités pour éventuellement être libéré sur parole et qui, à chaque fois, refusé, c'est la même chose.
Tout à fait, tout à fait. Et donc, en fait, dans les deux cas, il faut que les deux personnages disent merde au système pour que ça marche. Et ça, c'est quelque chose que je comprends. Il y a un côté romantisé, j'en suis parfaitement conscient, je suis parfaitement d'accord, mais je comprends pourquoi les personnages sont amenés à cette conclusion-là. Et quelque part, je pense que c'est la meilleure critique de ce système. C'est peut-être pas l'intention du film, mais je pense que c'est aussi une lecture qu'on peut avoir. Tu me suis ?
Je comprends ce que tu veux dire, mais je pense pas, parce qu'en fait, le système ne change pas.
Ah non, bien sûr. Ah non, non. Ah non, mais c'est tout le problème.
Malgré la fin.
C'est tout le problème, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais le film, justement, n'a pas vocation à changer le système. Le film nous dit, et c'est problématique, que comme le système est pourri, et comme le système ne changera pas, démerdez-vous. Et c'est problématique. J'en suis parfaitement conscient. Mmh. C'est vraiment problématique. Mais est-ce que c'est tellement éloigné de la réalité ? C'est
non,
ça, moi, finalement, la réflexion que j'ai. Mais
justement, ça dépeint une vision de société qui du coup n'envisage jamais la remise en cause du système, alors qu'il démontre
tout à fait
que celui-ci est particulièrement problématique.
Et là-dessus, je suis entièrement d'accord. Et donc voilà, je te rejoins. Néanmoins, je suis content que le film aborde certaines de ces thématiques, même si je répète que ce n'est pas forcément son propos, notamment sur... Alors, je pense, mais en réalité j'y connais rien, la prison c'est un univers que je ne connais pas, je ne sais pas exactement quelles étaient les conditions dans les prisons américaines dans les années 40, 50 et 60, donc voilà, je m'aventure un petit peu en terrain inconnu. Je pense aussi que le film, malgré quelques drames qui ont lieu dans la prison, nous montre aussi une facette peut-être un peu bon enfant avec le côté camaraderie qui se crée autour des personnages qui orbitent autour d'Andy. Y a des moments qui sont franchement drôles. Moi, la blague sur Alexandre Dumas, elle me fait éclater de rire à chaque fois. Il n'y a rien à faire. C'est une séquence avec, si je ne dis pas de bêtises, l'acteur, c'est William... j'ai oublié son nom, mais je le trouve hilarant. D'ailleurs, c'est aussi un des personnages à qui on demande en premier pourquoi
William
est-ce qu'il
Sandler.
Est en prison. Oui, c'est ça, William Sadler, merci. À qui on demande en premier pourquoi il est en prison, et il dit « The lawyer fucked me ». Voilà, il y a vraiment des moments, je trouve, de franche rigolade dans le film. Ça contribue aussi à sa dimension très feel-good. Mais c'est, je pense, dans les années 90, assez rafraîchissant d'avoir une vision quand même humanisante de la prison. Je ne sais pas très bien quelles sont les autres œuvres à l'époque qui ont ce propos-là, dans un film de ce genre en tout cas. D'accord, je ne parle pas de films qui sont éminemment dramatiques, parce que ce film n'est pas... c'est un drame, mais ce n'est pas que un drame,
non, bien sûr,
notamment
mais on peut
en raison
penser,
de sa fin.
Pas nécessairement au cinéma, mais à la télévision, on peut penser à... Et c'est plus ou moins concomitant.
Oz.
À Oz, évidemment.
C'est pour ça que j'ai dit... C'est pas du tout la même ambiance. Et le côté humanisant est quand même beaucoup plus brutal, je trouve, dans Oz. C'est pas une série familiale, voilà, pour reprendre ce terme-là, alors que les évadés, lui, il est complètement. Ça dépend de l'âge, évidemment, mais on se comprend. Donc voilà, je te rejoins dans les grandes lignes, mais je pense qu'il y a quand même des éléments très intéressants dans la manière dont le système est abordé, même si effectivement il n'est pas remis en question, et dans la manière aussi dont l'univers carcéral est un peu plus humanisé. Parce que, en particulier aujourd'hui, lorsque le commun des mortels aborde la question de la prison, j'ai l'impression, alors c'est peut-être un effet d'écho qui vient des réseaux sociaux aujourd'hui, mais qui a vraiment une vision très très punitive de ce qu'est la prison, et où les gens ont absolument leur mot à dire sur toute affaire judiciaire, je trouve que c'est problématique, et je pense que ce genre de film est intéressant afin de montrer que, en créant de l'empathie pour les personnages qui évoluent dans ces univers-là, eh bien, on peut peut-être, je l'espère, avoir une vision peut-être plus positive de ce que la réhabilitation devrait être, ou la réinsertion sociale, etc. Surtout que quelques années plus tard sortira la série Prison Break, elle, pour le coup, nous a envoyé dans un... Alors, je pense qu'il y a clairement des inspirations dans Prison Break, mais voilà, Prison Break, ça a ouvert la porte au grand complot, et c'est pas du tout les mêmes thématiques, et je trouve du coup que paradoxalement, ça humanise beaucoup moins que dans Shawshank Redemption. Voilà, désolé, je m'éparpille un peu. Une dernière chose que je voulais aborder, parce que tu en as parlé, la narration. Effectivement, je suis pas un adepte de la narration dans un film, sauf, et c'est ce que fait le film ici, pour des ellipses. Je pense que pour des ellipses, ça marche. C'est une méthode utilisée pas qu'une fois d'ailleurs chez Scorsese. Et d'ailleurs, Goodfellas est une source d'inspiration de ce film. Ça ne me surprend pas beaucoup. Et effectivement, le fait d'avoir en plus, en bonus, Morgan Freeman qui fait cette narration, je trouve que c'est absolument la cerise sur les gâteaux. C'est un artifice narratif efficace pour les ellipses, je trouve. Et ici, du coup, c'est franchement bien utilisé, parce que ça permet de, comment dire, de donner du liant au film.
À quelques exceptions près, quand même, bah, la phrase que j'ai citée, donc certains esprits sont trop brillants pour être ici. Et puis, il y a aussi, en fait, pour les ellipses, tu l'as dit, ça fonctionne. Il y a parfois des moments, en revanche, où il explique ce que tu es en train de voir à l'écran, littéralement. On parlait notamment de l'épilogue dans lequel le personnage de Tim Robbins doit vraiment traverser une canalisation pleine de matière fécale, et où en plus t'as la voix de Morgan Freeman qui explique que le personnage doit traverser littéralement des tunnels de merde pour pouvoir ressortir et enfin être lavé de tout ça. Où là en plus il te réexplique ce que tu vois déjà à l'écran, et ce qui est déjà très clair en termes de parabole. En plus il te le souligne, donc voilà, c'est bien parce que c'est Morgan Freeman qui te dit. Il y a quand même de temps en temps un petit côté lourdingue dans l'écriture.
Oui, mais ça marche. Alors d'une part parce que c'est Morgan Freeman, mais ça marche aussi parce que c'est raccord avec ce que le film a fait, et ça permet aussi de dédramatiser un petit peu la séquence. Je pense que ce serait beaucoup plus, pas pénible à regarder forcément, mais beaucoup plus lourd et dramatique sans cette narration-là. Je pense que ça y contribue, puisque c'est censé amener un épilogue quand même qui est un peu plus ensoleillé. Donc voilà, je vais essayer de conclure en disant que je suis assez d'accord avec toi, malgré la sympathie que j'ai pour ce film. Je vois complètement les problèmes que tu soulignes, et je les reconnais entièrement. Ils ne me surprennent pas, tu l'as dit, c'est quelque chose d'assez classique de Hollywood. L'individualisme triomphe, encore une fois. C'est normal, ça fait partie de l'histoire du cinéma américain, c'est partie de l'histoire politique américaine, tout simplement. Le salut vient par l'individu, parce que finalement, il y a un autre élément que tu n'as pas abordé, que j'aimerais aborder aussi. La réussite, l'espoir, c'est bien, mais il faut aussi être riche. D'accord. Est-ce que finalement, il était obligé d'être extrêmement riche à la fin, parce qu'il sort et il est très riche. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'est ça la récompense? Voilà, c'est exactement.
C'est l'illustration parfaite du rêve américain.
Exactement. Et ça, c'est clairement c'est clairement un problème dans le film, et je dirais dans la majorité des films américains. Il y en a très peu qui se sont osés à aller contre ce rêve américain. Et généralement, ce sont des films qui ont tendance à polariser.
Effectivement. Et puis, il y a un truc dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est quand même un axe majeur du film. C'est qu'on ne sait pas quand le film commence. Il y a un soupçon, en fait, pendant plus de la moitié du film, pendant les deux tiers du film, sur la culpabilité ou non du personnage de Tim Robbins. On ne sait pas s'il est effectivement un meurtrier ou pas. Et on finit par apprendre que non. Néanmoins, si tu te refais quand même le film au tout début, le film s'ouvre sur la séquence qui permet de jeter le doute sur sa culpabilité, puisque, en gros, il est jeté en prison, soupçonné condamné pour, soi-disant, le meurtre de sa femme qu'il trompait avec son amant et qu'il a surpris dans leur cabanon. Alors, certes, on apprend qu'il est innocent. Moi, je trouve qu'il y a quand même un petit... il y a deux choses. D'une part, Tim Robbins joue vraiment très très bien l'ambiguïté. C'est un acteur qui fonctionne super bien pour ça, je trouve, parce qu'il a une sorte de regard un tout petit peu fuyant qui permet vraiment de jouer sur cette nuance et qui permet de conserver le doute. Et ça, c'est vraiment un très très bon choix de casting et il le joue vraiment très bien. Néanmoins, c'est quand même un personnage qui, trompé par sa femme, est certainement totalement désespéré, mais est à deux doigts de passer à l'acte. C'est quand même un type qui a été jusqu'à boire, aller en voiture jusque sur les lieux de l'adultère, armé d'un fusil, et il était prêt à faire feu. Alors on se rend compte à la fin qu'il s'en est détourné. C'est quand même... Enfin voilà, il y a quand même un côté... le brave Tibor Robbins, le brave banquier, il est plus intelligent que tout le monde, il mérite pas d'être là, etc. C'est quand même pas tout à fait un enfant de cœur non plus.
Enfin, eh bien, écoute, voilà. Je trouve que c'est... paradoxalement, malgré les critiques qu'on peut avoir sur ce film, je trouve que c'est un des points que le film gère le mieux, parce qu'il y a un dialogue à la fin où il reconnaît sa culpabilité.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire qu'il dit lui-même qu'il a tué sa femme.
Mais je trouve que le film aurait été plus fort en ne répondant pas à la question. C'est-à-dire que tu ne sais pas jusqu'au bout, parce qu'effectivement, et ça c'est un des derniers
points... C'est bizarre, parce qu'en fait, moi, alors, c'est personnel, mais moi j'ai toujours cru à son innocence dès le début du film, parce que le personnage est éminemment honnête du début à la fin, et donc j'ai toujours cru qu'il était, était innocent en fait.
Moi je trouve que son innocence n'est pas nécessaire, c'est-à-dire que c'est un personnage qui va quand même avoir pendant toute une partie du film la figure de martyr, c'est-à-dire que jusqu'à ce que tu connaisses son plan... final, c'est quand même un personnage qui subit et qui visiblement accepte de subir. C'est-à-dire qu'il a une culpabilité en lui qu'il finit par expliquer. Et je trouve que le film aurait été d'autant plus fort qu'on ne sache pas, mais qu'il dise en fait, peu importe que je l'ai tué ou pas, je suis coupable parce que ben voilà, je l'ai délaissé, etc. Et je me sens coupable. Cette question-là est effectivement extrêmement intéressante, mais je trouve qu'elle perd de sa force parce que tu as la réponse. Et elle perd encore plus de sa force parce qu'en fait tu sais que depuis le début il cherchait à s'évader, ce que tu apprends à la fin du film. Mais je trouve qu'en fait la résolution de cette question n'était pas nécessaire, tu vois. Ça, justement, j'aurais préféré garder de l'ambiguïté. Ça l'aurait mis en fait sur plus sur un pied d'égalité par rapport aux autres prisonniers. Mais voilà, et moi c'est un des choses qui...
Oui, mais alors tu perds la figure messianique, parce que la figure messianique est censée être innocente, même si lui finalement se considère coupable.
Ah oui, mais moi j'ai un problème avec le fait que ce soit une figure messianique. Hein.
Ah oui, mais clairement, moi aussi, mais finalement c'est ce que c'est. C'est lui qui... Enfin, j'aime beaucoup la scène où il leur fait écouter de la musique, mais clairement c'est une scène où voilà, il y a un côté un peu gourou. Je vous donne accès à la culture,
ouais,
tu vois.
Il y a exactement ça. Excuse-moi, mais il y a quand même un côté bon sauvage, quoi. Je fais écouter aux prisonniers de la musique classique et tous ces bouseux et tous ces sous-êtres, pendant 2 minutes, ils ont eu l'impression d'être libres parce que je leur ai fait écouter de la culture. Alors, la scène est très belle.
Et jolie.
C'est
ouais,
une belle idée. Et elle a été reprise et on la connaît tous parce que. On a tous vu dans des séries, dans un lycée ou quoi, le gamin qui va s'enfermer dans la salle où il permet de diffuser au haut-parleur de la musique rock ou des trucs comme ça à ses copains.
Un manga, notamment. Un manga que je vous conseille, 20th Century Boys. Voilà, la pub est faite. Je vous en prie.
Tout à fait. Donc, voilà, c'est une figure classique. Mais ça force quand même vachement le trait sur le côté bon sauvage des prisonniers.
Oui, bien sûr.
Ouais, c'est... Moi, j'ai un peu de mal à adhérer au fait que tes 500 prisonniers s'arrêtent soudain dans la cour et écoutent en admiration totale et tombent en pamoison devant 2 minutes de Mozart.
C'est pour ça que tu l'as dit, c'est quelque chose, il y a une dimension très romantique dans le film. Et je pense que pour l'apprécier, il faut le prendre comme ça. Il faut le prendre comme ça. Et en ce sens-là, moi, j'aime beaucoup ce film. C'est un film que je prends beaucoup de plaisir à regarder. C'est aussi un film, on l'a dit, la narration fonctionne. C'est un film qui est très, très fluide, qui se regarde quand même d'une traite très facilement.
Alors qu'il est
Oui, tout à fait. Il fait plus de 2 heures. Et c'est pas facile. Moi, il y a des films de 1h30 que j'ai pris beaucoup plus de temps à regarder. Donc, c'est un film qui est bien fait. C'est un film qui est bien fait. C'est un film qui est agréable. Mais effectivement, une fois qu'on regarde entre les lignes, il y a des éléments problématiques qui sont propres tout simplement
à la
culture américaine. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Ouais. Mais écoute, je propose qu'on clôture là-dessus.
Oui, très bien.
Et donc, je te laisse nous dire sur quoi on conclut cette dizaine.
Mais on va conclure sur un chef-d'œuvre, on va conclure sur une œuvre absolument extraordinaire, on va conclure sur le futur top 1 du top 50, c'est simple que ça. ce fou rire vous est offert en exclusivité par Moussa. Non, C'est l'aboutissement de mon plan. Hein. Quand on a commencé ce podcast, la prémisse était que je considérais que Moussa avait vraiment très mauvais goût en matière de cinéma et qu'on allait l'éduquer, on allait l'amener vers la lumière, on allait peu à peu l'élever
Bien sûr, Andy.
pour... C'est bien, bien joué. Touché. Et donc, pour l'amener à quoi? Eh bien, pour l'amener non pas à du Mozart, mais presque, presque, on va regarder La La Land de Damien Chazelle.
Mozart doit se retourner dans sa tombe.
Ne parle pas avant d'avoir vu. Alors, Moussa, moi, ce qui me hérisse, c'est que depuis des années, tu dis comédie musicale, j'aime pas ça, regarde le blanc va éduquer
C'est pas
l'autre,
vrai.
jazz, etc.
J'aime bien les comédies musicales. J'ai juste
Eh
une
bien.
allergie face à La La Land pour les mêmes raisons que tu avais une allergie face à Shawshank
Oui, sauf que moi, j'ai eu raison, et tu te rendras compte que tu auras tort d'avoir une allergie à La La Land sans l'avoir
Redemption.
vue. Mais bon, on réserve ça pour l'épisode prochain, on va pas déjà commencer le débat, mais en tout cas. Moi, je m'attends vraiment, j'attends beaucoup de choses de ce dernier épisode, en tout cas de ce dernier épisode pour la première cinquantaine de Contre-Champs. Je voulais arriver à ça depuis le début, on y est, j'appréhende un petit peu, mais en même temps, on ne peut pas ne pas être séduit par La La Land, donc j'ai confiance et j'attends la semaine prochaine avec grand plaisir et avec délectation, cher Moussa.
Très bien, allez, je vais aller me farcir ça.
Mais qui... J'attends des excuses, hein. Je te préviens, ça fait
Ah,
des années que tu me...
si j'aime, je m'excuserai, vraiment.
Oui, pour des années de frustration et d'insultes et de... Je préviens, hein.
Insulte, même pas du mépris, du
Ah si,
désintérêt
ah si, si,
total,
si. Non, non,
peut-être.
du mépris, moi j'ai été profondément blessé et ça dure depuis des années, donc...
Ah, je suis désolé, si tu as
Ah
été
non,
blessé, alors
non.
je suis sincèrement désolé.
Il faudra un vrai texte d'excuses. On va commencer... Les 10 premières minutes du podcast seront consacrées à un mea culpa, un mea maxima culpa. De la part de
Écoute,
Moussa, soyez
je le
prévenus.
chanterai même. D'ailleurs, tiens, voilà, on
Pari
va
tenu,
chanter le
pari
prochain
tenu.
épisode.
Pari tenu, très bien.
Allez, eh bien, merci pour votre écoute. Ce fut encore une fois un épisode agréable et on vous dit à la prochaine pour La La Land.
Salut tout le monde!